sur RFI.
Appel sur l'actualité est à Bamako. Juan Gomez.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue au Forum de Bamako qui s'est imposé comme l'un des rendez-vous incontournables consacrés à l'avenir de l'Afrique. Le Forum de Bamako qui souffle ses 20 bougies, l'occasion pour les participants de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru depuis la première édition, c'était en 2000, mais aussi et surtout d'explorer les défis que le continent devra relever au cours des deux prochaines décennies, d'où le thème choisi pour cette 20e édition. Quelle Afrique à l'horizon 2040? Et parmi les défis que le continent devra relever, il y en a un qui est impératif, rattraper le retard concernant les infrastructures. Tous les experts sont unanimes, le continent ne décollera pas tant que la pénurie d'infrastructures ne sera pas résorbée. L'Afrique a besoin de routes, de ports, d'aéroports, de chemins de fer, mais aussi de moyens de télécommunication, des centrales électriques, des installations d'assainissement d'eau. Le chantier est titanesque, mais encore faut-il payer la facture. Tenez-vous bien, pour rattraper son retard, le continent doit investir entre 130 et 170 milliards de dollars par an. L'occasion donc ce matin de dresser un état des lieux. Dites-nous ce qu'il en est dans votre pays. Se donne-t-on les moyens de moderniser, voire même de construire de nouvelles infrastructures? Vos réactions, vos témoignages nous intéressent. Et pour dialoguer avec vous, plusieurs invités qui prennent part au forum de Bamako. Madame Traoré Senabou Diop, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la ministre des Infrastructures et de l'Équipement du Mali. J'évoquais à l'instant le financement, le nerf de la guerre. Qui dit argent dit forcément banque. Birama Sidibé, bonjour.
Bonjour, monsieur Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien vice-président des opérations de la Banque islamique de développement. Vous avez une très longue carrière également à la Banque africaine de développement. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur général d'Interface qui conseille les porteurs de projets pour mobiliser des fonds justement dans le secteur des infrastructures. Vous êtes un spécialiste du développement et votre expertise évidemment sera très importante tout au long de cette émission. Il y a les banques pour financer, mais il y a aussi les États qui investissent dans les infrastructures. C'est le cas notamment de la Chine, partenaire incontournable de l'Afrique. Xu Liying, bonjour.
Bonjour, monsieur Gomez.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ambassadeur de Chine au Mali. C'est vrai que de nombreuses infrastructures ont vu le jour sur le continent grâce au financement chinois. On aura évidemment l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission. Avant de passer au standard, et les auditeurs sont très nombreux à souhaiter vous interpeller justement sur l'état des infrastructures dans leur pays. Avant de passer au standard, un constat, bien Birama Sidibé, vous qui êtes le spécialiste du développement, constat de la Banque mondiale, pour qui le manque d'infrastructures ralentit la croissance des pays d'Afrique. Finalement, quand on regarde les chiffres, la croissance en Afrique, elle est bonne, elle est à 4% cette année, en 2020. Certes, c'est un peu moins que l'Asie qui fera 5%, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que l'Europe. L'Europe fera 1,2% de croissance. Ça veut dire quoi? Que si l'Afrique avait aujourd'hui les infrastructures nécessaires, elle ferait aussi bien que l'Asie, voire peut-être mieux que les Asiatiques?
Dans l'absolu, pas forcément. Mais en réalité, dans le cas de l'Afrique, c'est vrai que si l'Afrique avait suffisamment d'infrastructures pour participer au commerce mondial, pour participer aux échanges de marchandises, c'est sûr que sa croissance serait beaucoup plus importante. Ça, c'est
Allez,
sûr.
On passe au standard. Il y a Jean-Louis qui s'impatiente et qui souhaite évidemment dialoguer avec vous tous. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour Juan Gomez et je salue tous vos invités sur le plateau à Bamako.
Merci, vous nous appelez vous de Yaoundé, vous êtes au Cameroun et vous souhaitez nous parler de l'état des routes dans votre pays.
Oui, tout à fait, parce que vous savez, on dit souvent que là où la route passe, le développement suit. Et je veux vous dire qu'au Cameroun, la route ne passe pas partout et forcément, le développement a du mal à suivre. Je prends le cas, par exemple, de l'agriculture au Cameroun, le rapport avec les infrastructures. Vous savez que le Cameroun a été pendant longtemps une puissance agricole, entre guillemets, dans la sous-région. Mais ce qui décourage la plupart de nos jeunes qui travaillent dans les campagnes, c'est que une fois qu'ils ont des récoltes, ils ont du mal à les faire parvenir vers les centres de commercialisation. Et ça, c'est un très grand problème parce que ces jeunes-là sont découragés et ils abandonnent l'agriculture. Finalement, ils sont des acteurs de l'exode rural. Ils viennent remplir les villes pour devenir soit des acteurs du secteur informel, soit alimenter des groupes comme des groupes de bandits, oui, ou alors des groupes de chômeurs.
Donc il faut absolument,
c'est un gros problème.
Il faut absolument désenclaver certaines régions agricoles. Madame la ministre, le producteur de pommes de terre dans le sud du Mali, il est confronté finalement aux mêmes difficultés que l'agriculteur au Cameroun.
Tout à fait. Et je pense que la problématique est la même et que l'agriculteur voudrait effectivement que toutes ces marchandises soient écoulées en tanté, ce qui pose des problèmes à cause des voies qui sont mal entretenues. Au Mali, ici, nous avons pris en compte cette problématique et nous avons mis en place un projet qui s'appelle Programme d'amélioration à l'accessibilité rurale, oui, qui nous permet de sortir des grandes pistes, parce que c'est des pistes rurales, vers les grands producteurs, ce qui permet aux producteurs d'aller vers la ville et de vendre son produit.
Oui. Birama Sidibé, parce que justement, Madame la Ministre l'évoquait à l'instant, il s'agit de pistes rurales pour désenclaver les régions. On n'a pas besoin de construire des autoroutes.
Non, pas du tout. Et Jean-Lucien illustre vraiment la problématique du financement des infrastructures. La priorité à donner aux infrastructures basses, que j'appelle les infrastructures locales, mais sans lesquelles aussi les grandes infrastructures n'ont aucun sens. Je veux dire que si la marchandise ne quitte pas le village pour arriver sur la route nationale, eh bien, les deux se complètent. Donc, il illustre vraiment parfaitement la problématique, oui, du financement des infrastructures.
L'état des routes, Madame la Ministre, a donné lieu à une certaine grogne il y a quelques mois au Mali. Vous avez été interpellée puisque vous êtes la ministre des infrastructures. On se souvient des piquets de grève le long des axes principaux ici au Mali. La population qui réclamait soit de nouvelles routes ou au pire une amélioration de la qualité des routes maliennes.
Vous avez raison. Tout le monde veut avoir de la bonne route, tout le monde veut avoir de bonnes façons de se déplacer. Surtout en hivernage, les routes sont très mauvaises et l'entretien routier doit suivre. Et parfois, tout le monde n'a pas l'entretien routier à hauteur de souhait. D'où cette grogne. Mais nous sommes partis vers les populations, nous leur avons expliqué et nous avons réussi à trouver une entente.
Une entente. Vous avez débloqué des fonds? Nous avons. Parce qu'il faut de l'argent. On va en parler tout au long de l'émission. L'argent, c'est le nerf de la guerre.
Oui, l'argent est débloqué. De toute façon, chaque année, nous mettons un budget. Le budget de mon ministère, c'est 5,8% même de la cagnotte.
Tout l'argent ne va pas aux routes.
Tout ne peut pas
ni
aller
au transport.
Malheureusement.
Bah oui.
Ça aurait été bien. Moi, j'aurais bien voulu prendre les 100% du budget national, mais qu'est-ce que diraient les autres?
Ah bah, effectivement, donc, il y a d'autres secteurs prioritaires.
Absolument. Ouais. Et nous sommes là aujourd'hui avec des partenaires qui nous aident à augmenter cette possibilité pour combler les attentes des populations.
Et ses partenaires, notamment la Banque africaine de développement, l'Union européenne, mais aussi la Chine. Merci. L'ambassadeur de Chine au Mali est à nos côtés ce matin. Il dialogue avec vous. Je vais vous donner la parole dans un instant, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais remercier Jean-Lucien pour son témoignage du Cameroun. Une question qui nous vient de la République démocratique du Congo. Bonjour Ali Dor.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les spécialistes qui sont vos invités à Bamako.
Merci de vos encouragements. Quelle est votre question, Ali Dor?
Le problème des engorgements est un problème, mais un autre, c'est l'état des routes d'ailleurs. Le mauvais état des routes, justement, ne permet pas la libre circulation des marchandises et du coup crée une inflation sur les marchés chinois, par exemple. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut dire finalement que la ZRELECAF est vouée à l'échec s'il n'y a pas de réseau routier digne de ce nom entre les pays?
Alors, la ZLECA, je le rappelle, c'est la zone de libre-échange continentale. L'idée, c'est d'unir tous les États africains pour constituer un seul marché d'1,2 milliard de consommateurs en facilitant le commerce interafricain. Alors certes, c'est un ambitieux projet. Il va falloir harmoniser les législations commerciales, harmoniser les règles douanières. Mais il faudra également des routes forcément pour permettre aux marchandises d'aller de Dakar à Djibouti. L'état des routes, Madame la Ministre, c'est une des clés de réussite de ce marché commun africain.
Tout à fait. Et justement, dans ce sens, l'UMO a déjà planché sur la question et a sorti déjà une directive qui fait que tous les pays doivent harmoniser les caractéristiques de leur route. Ce qui veut dire que quand je vais quitter Dakar pour venir à Bamako et pour continuer sur Niamey, j'aurai la même qualité de route, ce qui me permettra de faire tranquillement mes prévisions de déplacement.
Birama Sidibé, sur la ZLECA. Oui, et les routes, vous y croyez ou pas?
J'y crois parce que c'est une formidable avancée. la SLECA. Mais pour qu'une zone de libre-échange ait un sens, il faut les infrastructures de cette zone. Donc absolument, l'exemple qu'on peut donner, les Sud-Africains qui sont une puissance économique, s'ils veulent exporter vers l'Algérie, il faut une infrastructure qui va de l'Afrique du Sud à l'Algérie, une route par exemple.
Il faut des routes, il faut des chemins de fer,
il faut des ports.
Voilà. Donc également. Mais est-ce qu'un État tout seul peut dire, est-ce que le Mali, Madame la Ministre, tout seul peut dire, eh bien écoutez, moi je vais construire 3000 km de route et le voisin, il a qu'à se débrouiller tout seul.
Non, il ne pourra pas faire ça. C'est pour ça que nous avons des alliances, c'est pour ça que nous avons beaucoup de réunions autour de ces problématiques et que nous avons un projet qui s'appelle la Transsaharienne.
9500 km,
tout à fait.
La Transsaharienne, oui. Effectivement, avec plusieurs branches qui vont relier Alger, Tunis, Bamako, Niamey, N'Djamena, Lagos. Monsieur l'ambassadeur Chou Liying, comment la Chine perçoit ce projet de marché commun africain?
Bon, je commence d'abord par saluer Jean-Lucien de Yaoundé et Alidor de Kinshasa pour avoir bien posé la question, pour avoir bien commencé par la route. Effectivement, en Chine, au moment du décollage économique, il y a 40 ans, nous avons aussi cet adage similaire. Ça veut dire que pour développer, il faut commencer par la route. En Afrique, vous avez l'agenda 2063. Et là, vous avez parmi les 20 objectifs, une des priorités, c'est la route. Vous avez très bien parlé de la zone de libre-échange. Dans cette zone de libre-échange, la route est aussi une des priorités.
Pour la Chine, c'est une opportunité, ce marché commun.
Tout à fait. En effet, entre la Chine et l'Afrique, nous avons un système de coopération qui date de 20 ans. Cette année, on célèbre le 20 ans. C'est le sommet de la coopération Chine-Afrique. Il y a 2 ans, au moment du sommet de Pékin sur la coopération Chine-Afrique, nous avons fixé 8 grands objectifs. Parmi ces 8, il y a l'infrastructure, notamment la route. Nous voudrions avoir une politique de long terme, une politique bien harmonisée entre les pays africains.
Mais pour vous, représentant de la Chine, dans cette émission, il y a tout intérêt à ce que l'Afrique réussisse ce pari de la zone de libre-échange, notamment de construire des routes. Ça vous permettra à vous, Chinois, d'exporter de Pékin vers l'Afrique davantage de produits, mais aussi d'importer davantage de produits africains vers l'Asie et notamment vers la Chine. Et je pense aux matières premières.
Pas seulement les matières premières, mais aussi des produits agricoles. Les fruits, le café notamment. L'an dernier, l'augmentation de l'importation des fruits et de café africains vers la Chine a augmenté de presque de 40%. Donc ça veut dire que le marché chinois est énorme. Nous avons besoin des produits africains. Donc avec la construction de ces bonnes routes, nous pouvons faire encore plus le commerce entre nos deux côtés.
On va repasser au standard et on continue à parler des routes. Hein. C'est comme ça, c'est la priorité numéro un des auditeurs qui nous ont contactés pour participer à cette émission. Bonjour Maury.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Conakry, en Guinée. Nous vous écoutons avec les invités.
Bon, Juan, il faut admettre une chose, c'est qu'en ce moment, depuis environ 1 an, voire 2 ans, les entreprises chinoises sont en train de faire de très gros travaux de réhabilitation du réseau national guinéen, principalement, là je parle de l'axe qui part de Conakry à la ville de Kourou-Sa, donc un axe d'environ 600 km. Mm-hmm. Et les travaux d'envergure sont faits en ce moment afin de réhabiliter ce réseau. On ne peut que s'en réjouir. La contrepartie, il faut savoir que derrière, c'est un financement purement chinois, et en contrepartie, les autorités guinéennes laisse les entreprises chinoises exploiter les minerais ou le sous-sol guinéen.
Ouais. C'est-à-dire que, si je comprends bien, Maurice, si je comprends bien, la Chine vous prête plusieurs milliards de dollars pour construire des routes, mais en échange, votre pays, la Guinée, accorde des concessions minières à des entreprises chinoises.
Oui, ça fait partie du deal.
Et c'est du gagnant-gagnant pour vous ?
Plutôt du donnant-donnant. Le terme donnant-donnant.
Monsieur l'ambassadeur.
Tout à fait. Soit donnant-donnant, soit gagnant-gagnant, à mon avis, c'est pareil, c'est la même chose. C'est une affaire équitable. Notre ami Maury, je crois que vous êtes très bien informé. En effet, en 2017, entre le gouvernement chinois et le gouvernement guinéen, nous avons signé une convention sur, d'une part, construire des routes, et de l'autre part, exploiter des mines, plus précisément aluminium.
Oui.
Pour l'instant, deux projets de route sont en cours. C'est un exemple.
Mais c'est un exemple tout de même qui est controversé, monsieur l'ambassadeur. J'aimerais avoir le regard, et je vous redonne la parole évidemment dans un instant, le regard de Birama Sidibé. Les populations ne comprennent pas que les États, on parle de la Guinée par exemple, hypothèquent ces matières premières, ces sous-sols, pour construire des routes.
Donc effectivement, c'est vraiment une préoccupation. Un regard indépendant, bien sûr. Personnellement, j'estime que les ressources minières d'un pays sont intergénérationnelles. Donc, si on a des mines aujourd'hui, c'est que ceux qui sont passés avant nous, nous en ont laissé. Et nous avons la même responsabilité vis-à-vis des générations futures. C'est une pratique acceptable, mais à condition que ce ne soit pas au détriment des générations futures. Donc, il y a une responsabilité de ceux qui se mettent autour d'une table pour définir ce genre d'accord, qu'il soit équitable et surtout qu'il ne soit pas au détriment complètement des générations futures.
Et monsieur l'ambassadeur, on reproche aussi à la Chine, à travers ces accords, de surendetter l'Afrique.
Je reviens toujours sur ces ressources naturelles souterraines. C'est que, à mon avis, transformer ces ressources naturelles souterraines en ressources financières pour construire des projets d'infrastructure, ça c'est une bonne chose pour l'État. Bon, bien entendu, il faut protéger ces ressources naturelles. Il ne faut pas exploiter de façon sauvage. Ça, je suis d'accord. Mais en tout cas, puisque l'Afrique a besoin du financement, et un client comme la Chine ou autres pays européens ou américains, des clients ont besoin des ressources naturelles. Pourquoi pas établir des liens de commerce équitable entre les deux côtés.
Madame la ministre, votre regard, pas forcément sur cet accord conclu entre la Chine et la Guinée, mais sur ce type d'accord de façon générale, donnant, gagnant-gagnant, vous construisez des routes, des autoroutes, des stades, des palais de la culture, bref, vous construisez des infrastructures et en échange, pour vous rembourser, car on n'a pas cette somme, eh bien, vous exploitez pendant tant d'années nos matières premières. Vous en pensez quoi ?
Le partenariat gagnant-gagnant est une politique qui est acceptée, bien sûr, par mon gouvernement, parce que ce n'est plus. On change du premier concept qui était un concept de main tendue. Et on évolue vers le partenariat gagnant-gagnant, donnant-donnant. Chacun donne une partie de ce qu'il a pour arriver au final au développement du pays.
Mais moi, je me pose une question que peut-être beaucoup d'auditeurs se posent en ce moment. Je reviens à un exemple concret, celui de l'accord signé entre la Chine et la Guinée. 20 milliards de dollars pour construire des infrastructures. Mais la Chine, en attendant, exploite. Mais comment être sûr qu'elle exploitera à hauteur de 20 milliards et pas 30 ou 40 milliards, monsieur l'ambassadeur ? Je pose peut-être une question qui est stupide, je ne sais pas, mais c'est une question voilà, que je me pose.
Je crois que plus précisément, ça doit être inclus dans les accords. Donc, il y a des autorités qui surveillent, sûrement. Est-ce que je peux réagir sur la question de l'endettement ?
Bien sûr.
Parce qu'il a une fausse image, tout à fait fausse image, qui est créé de nulle part sur l'endettement de l'Afrique vis-à-vis de la Chine, en disant que l'investissement chinois en Afrique a surendetté l'Afrique. Mais en effet, l'endettement africain vis-à-vis de la Chine ne représente que 2% de sa totalité vis-à-vis du monde entier. Pour le reste, c'est vis-à-vis des institutions internationales, des pays du Club de Paris.
Donc ça, ce sont les détracteurs, finalement, qui véhiculent cette rumeur ?
Oui. En tout cas, aucun pays de l'Afrique ne se plaint contre la Chine. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur, cette image, mais en fait, un proverbe chinois dit ceci. C'est seul la personne qui porte les chaussures sait très bien si la pointure lui va ou pas.
Effectivement, c'est un proverbe qui en dit long. Et c'est sur ce proverbe que nous allons marquer une pause. On va retrouver l'ensemble. Et oui, madame la ministre, ça passe vite, 20 minutes. On marque une pause, on retrouve l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et c'est promis, on sera de retour dans 10 minutes avec nos invités et vos réactions.
Bamako, 98.5 FM.